On débute avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un jeu de questions-réponses inédit hier soir à l'Élysée. Le style choisi par Emmanuel Macron pour répondre aux interrogations des maires en plein doute sur leur avenir semble avoir fonctionné. Alors que la moitié des élus veulent rendre leur écharpe tricolore pour les prochaines municipales en 2020.
Les réponses de l'exécutif n'arrivent pas à convaincre. En revanche, les gilets jaunes dans l'Hexagone et sur l'île de la Réunion, ils touchés par des violences depuis samedi, difficile de trouver une issue à un mouvement protéiforme, vous l'entendrez.
Elle a une encore, l'avenir de l'alliance Renault-Nissan en jeu aujourd'hui au Japon. Et puis une grève générale des fonctionnaires en Tunisie contre l'austérité et l'inflation.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, l'université peut-elle rester attractive avec des frais d'inscription en hausse? On posera la question à une directrice de recherche au CNRS, Christine Musselin.
Le gouvernement sera intraitable face aux violences qui ont éclaté sur l'île de la Réunion en marge du mouvement des Gilets jaunes contre la hausse du prix des carburants. Emmanuel Macron a dénoncé hier les démagogues qui sont en train de jouer partout avec la haine. Ils sont irresponsables, a déclaré le chef de l'État. On va y revenir. Les Gilets jaunes qui bloquent encore des routes ce matin sur l'île de la Réunion. 13 barrages filtrants au moins recensés par la chaîne Réunion la Première. Les crèches, les écoles, collèges, lycées, la plupart des administration reste fermée aujourd'hui encore, même si le couvre-feu a été levé à 6h, heure locale, 3h à Paris. 30 membres des forces de l'ordre ont été blessés sur l'île depuis samedi. Si la nuit dernière a été plus calme que la précédente, des policiers doivent arriver en renfort depuis la métropole. Quelle issue trouver à ce mouvement protéiforme? Des réunionnais commencent à s'agacer d'un manque d'organisation, Bruce Régent.
Les gilets jaunes réunionnais ne s'étaient jamais cachés d'avoir des doléances multiples, voire très disparates, mais hier soir, la délégation qui s'est exprimée au JT régional sur la première a surpris face à une population qui peine à se ravitailler dans des magasins aux ouvertures sporadiques, à des poubelles qui ne sont plus ramassées, à toute une économie bloquée, aux pertes des agriculteurs interrompues dans la récolte de canne à sucre. La porte-parole du jour a concédé qu'il y avait un problème d'organisation et que le mouvement allait commencer à s'y atteler. Des revendications principales commencent tout juste à émerger, comme la remise à plat de toute la fiscalité locale. À ceux qui rétorquent que c'est un sujet complexe, et les gilets jaunes répondent « on a le temps ». La nuit dernière, il y a tout de même eu encore des incidents sans gilets. Ils ont certes été moins violents que la veille, mais de nouveaux renforts de forces de l'ordre sont annoncés. 28 agents au profil brigade anticriminalité et peut-être même des hommes du raid, selon l'UNSA Police. Hier, la gendarmerie avait déjà sorti ses quelques blindés.
Bruce Régent à Saint-Denis pour Réunion la Première. La réponse de l'exécutif face aux violences sera intraitable, a donc déclaré Emmanuel Macron depuis l'Élysée face à 2000 maires. 2 heures de débats libres et directs qui valent mieux, explique le chef de l'État, qu'un discours dans une salle où les élus ne peuvent pas répondre. Manière pour Emmanuel Macron de justifier son absence au congrès de l'Association des maires alors qu'il s'était engagé à y venir l'an dernier. Opération reconquête donc depuis l'Élysée face à des élus qui déplorent un manque de dialogue et de soutien de l'État, des maires qui se disent démunis sur le plan financier et face à leurs administrés. Le reportage de Maureen Suniard.
À leur arrivée sur le perron de l'Élysée, c'est d'abord l'heure de la séance photo pour beaucoup, un moment très important pour François Anglade, le maire de Laurens dans l'Hérault.
Pour moi, c'est un grand moment. J'ai 61 ans, j'ai la même émotion que le jour où j'ai déposé une gerbe sous l'Arc de Triomphe et que j'ai ravivé la flamme du soldat inconnu. Je suis très ému aujourd'hui.
D'autres disent avoir répondu à l'invitation du président par courtoisie républicaine. Emmanuel Macron qui a d'abord prononcé un discours devant les élus.
Je sais que moi, votre quotidien n'est pas facile. Celui du gouvernement ne l'est pas davantage, je vous rassure. Face à ces défis, on a une responsabilité commune, c'est d'être ensemble.
Puis pendant 2 heures, il a répondu aux questions des maires de manière très décontractée, a promis de réformer en profondeur la fiscalité locale, de revoir l'organisation territoriale. Mais à la sortie, Alain Castan, président des maires ruraux de Dordogne, a demandé au président d'arrêter la câlinothérapie.
Ce soir, il m'a convaincu à moitié, par exemple sur la loi Nôtre, où il a dit qu'il allait un petit peu la toiletter, ce qui nous convient à nous dans la ruralité. On veut un gros toilettage. Les paroles, c'est bien, mais maintenant des actes.
Des maires prudents, mais qui semblaient tout de même séduits par les mots d'Emmanuel Macron et enthousiastes comme Bruno Kuhn, maire d'Ilsenheim.
Je pense qu'un président, il peut convaincre avec son discours lorsque ce discours est honnête et qu'il est franc. Il connaît son pays. En unissant nos forces, on dit qu'on est plus fort, donc j'espère que ça va aller dans ce sens.
Un dialogue qui se fera au Congrès des maires l'année prochaine, puisque le chef de l'État s'est engagé à y retourner.
L'exécutif devrait réfléchir avant de relever les taxes sur le carburant en janvier prochain. C'est l'appel lancé ce matin par François Bayrou dans les pages du Figaro. Le président du Modem, ex-ministre de la Justice, Édouard Philippe, voit dans le mouvement des Gilets jaunes le signe d'une rupture sociologique profonde dont le chef de l'État a selon lui pleine conscience. Mais si l'on veut que la politique réussisse, affirme François Bayrou, il est impératif d'ouvrir un nouvel acte du quinquennat qui réponde à cette rupture, un nouvel acte civique, social et populaire. Et quand les Gilets jaunes font voir rouge à l'Assemblée, le député non inscrit Jean Lassalle a provoqué une suspension de séance hier lors des questions au gouvernement. Le député des Pyrénées-Atlantiques portait un gilet jaune que le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, lui a intimé de retirer. Elle appelle les Gilets jaunes à ne pas bloquer la grande marche de samedi contre les violences sexistes et sexuelles. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol appelle au partage de l'espace public pour que la manifestation organisée par le collectif Nous Toutes dans une cinquantaine de villes de France puisse se tenir, notamment à partir de 14h à Paris, entre les places de la Madeleine et de la République. Combien l'État doit-il dépenser pour financer la lutte contre les violences faites aux femmes? C'est le sujet d'un colloque qui se tiendra cet après-midi à Paris au Conseil économique, social et environnemental. Un rapport y sera dévoilé, mais déjà les associations spécialisées déplorent un manque de moyens. 80 millions d'euros consacrés cette année aux violences faites aux femmes. Il en faudrait 6 fois plus pour développer l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales et augmenter les subventions des associations qui sont parfois contraintes aujourd'hui de licencier du personnel, faute de moyens alors qu'elles sont très sollicitées. Arrêtons-nous à présent sur un nouvel outil de mesure que le gouvernement va présenter aujourd'hui pour noter les inégalités salariales entre hommes et femmes. 9% d'écart de revenus à un poste égal et au même âge. Une nouvelle grille doit s'appliquer à partir de l'an prochain aux entreprises de plus de 250 salariés avec des sanctions financières en cas de manquement, Claire Chaudière.
C'est une note sur 100 qui a été imaginée avec en ligne de mire à la fois les écarts de rémunération à poste égal, mais aussi les plafonds de verre qui persistent dans de nombreuses entreprises, en témoignent ces salariés EES de sociétés cotées ou de start-up.
Tout notre top management est masculin. Premier retour de congé maternité, dégringolade. J'ai été rétrogradée.
Il y a une courbe cassée à ce moment-là. Donc nécessairement, structurellement, on est obligé de ralentir.
Alors en plus des écarts de salaire à fonction et ancienneté équivalente qui dégraderont la note, l'égalité face aux augmentations et aux promotions rapportera des points, la mixité dans les plus hauts salaires et la question cruciale des retours de congés maternité compteront aussi. Intéressant pour le DRH Jean-Christophe Sibéras, ex-président d'un groupe de travail sur les discriminations.
Pour beaucoup d'entreprises, ça va quand même être un gros changement. Ça va être exigeant parce qu'on va commencer parfois à regarder des choses qu'on ne regardait pas en détail. Par exemple, est-ce que toutes les femmes étaient augmentées au moins comme leurs collègues après le congé maternité? Je ne suis pas sûr que toutes les entreprises regardent ça. Alors après, est-ce que l'exigence est maximale?
Question également posée par les syndicats qui s'inquiètent de critères évalués de manière un peu trop souple, mais qui attendent la présentation définitive ce soir du nouveau barème pour se prononcer.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a créé la surprise hier à l'Assemblée en annonçant sa volonté de réformer par ordonnance la justice des mineurs. Dans le cadre de la loi pour la réforme de la justice, le gouvernement sollicitera du Parlement une habilitation à réformer l'ordonnance de 1945, déjà modifiée une quarantaine de fois. Un rapport sénatorial a récemment prôné une réécriture de cette ordonnance de 45 pour renouer avec son esprit en réaffirmant la primauté de l'éducatif sur le répressif.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le conseil d'administration du géant de l'automobile Nissan se réunit aujourd'hui pour limoger son président Carlos Ghosn.
Resté silencieux depuis sa cellule de détention à Tokyo, Carlos Ghosn soupçonné de malversation présumée, une déchéance jusque-là inimaginable pour l'homme qui avait monté l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Un actionnaire de Renault a porté plainte d'ailleurs hier à Paris pour abus de biens sociaux et diffusion de fausses informations au marché. Il veut obtenir réparation pour la chute du titre du constructeur entraîné par l'arrestation de Carlos Ghosn lundi. Le budget italien dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne a jugé non conforme à ses recommandations le plan présenté par les populistes au pouvoir à Rome. 13 autres pays feront l'objet d'un bilan approfondi par la Commission, dont la France et l'Allemagne, mais pour des raisons opposées, Marie Viennot.
Dans le club européen, on peut faire en gros 7 équipes. Celles pour qui la Commission européenne n'a pas grand-chose à dire et 6 autres. Dans la première, tout en bas de classement, il y a l'Espagne, seul pays encore à faire l'objet d'une procédure pour déficit excessif, mais devrait en sortir, et l'Italie qui pourrait y rentrer. Juste au-dessus, mais en bas de tableau, la France, la Belgique, le Portugal et la Slovénie, 4 États dont les projets de budget pour 2019 ne vont pas assez loin pour que leur dette se réduise significativement. Dans un groupe parallèle, on trouve la Hongrie et la Roumanie, deux pays qui font l'objet d'une procédure pour déficit important, c'est le terme, et n'ont pas encore corrigé leur trajectoire dans le sens que recommandait la Commission. À part également la Grèce, dont le budget est de nouveau examiné par la Commission européenne et non plus par ses créanciers, mais le pays restant quand même sous surveillance. Suède, Chypre, Irlande, Bulgarie, Croatie n'ont eux pas de problème de budget, mais des déséquilibres du marché immobilier pour l'un, du secteur bancaire ou trop d'endettement privé. Enfin, dernier groupe tout en haut du tableau, l'Allemagne, les Pays-Bas, deux pays qui vont faire l'objet d'examens approfondis car leurs excédents sont encore trop importants. Or, ces déséquilibres, même dans le sens positif, sont aussi un risque pour la stabilité de l'économie européenne.
Ils sont 700 000 fonctionnaires en Tunisie appelés à faire grève aujourd'hui pour demander des augmentations de salaire pour compenser l'inflation galopante. Et les fonctionnaires qui reprochent également au gouvernement de se plier aux directives du FMI. Maureen Mercier.
700 000 fonctionnaires pour 11 millions d'habitants. La fonction publique est un mastodonte. Cette masse salariale absorbe plus de 70% des recettes de l'État. Or, les caisses sont vides. Alors comment augmenter les salaires pour compenser la hausse des prix? C'est ce qu'exige l'UGTT, la très puissante centrale syndicale. Impossible, répond le gouvernement. Impossible d'autant plus qu'il doit se plier aux exigences des bailleurs de fonds internationaux. Il faut diminuer la masse salariale et non l'augmenter. Depuis la révolution, la reprise économique se fait toujours attendre. Le chômage dépasse les 15%, l'inflation frôle les 8%, le dinar a perdu 60% de sa valeur en 4 ans. Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'érode au point que même les fonctionnaires, pourtant mieux lotis que la moyenne, se sentent pris à la gorge. Eux aussi assurent souvent ne plus réussir à manger de la viande régulièrement, trop cher. Pareil pour le poisson. La population, au-delà des fonctionnaires, pourrait rejoindre aujourd'hui le mouvement. En 2011, la révolution s'est faite sur des critères socio-économiques principalement. Depuis, les Tunisiens vivent encore plus difficilement. La classe politique les écœure et que celle-ci suive les directives des bailleurs de fonds dont le FMI nourrit encore un peu plus cette rancœur.
Maureen Mercier à Tunis pour France Culture. Le temps de ce jeudi 22 novembre, gris, pluvieux, notamment près des côtes. Davantage d'éclaircies au fil des heures. Attention aux gelées encore ce matin. Au meilleur de la journée, il fera entre 6 et 11 degrés en général sur la moitié nord de l'Hexagone. 11 à 17 au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutus.